Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathurin Loncle, designer UX/UI au sein de La Grande Ours. Merci de nous rejoindre pour cet épisode d'Un Poil d'UX en direct de notre agence. Aujourd'hui, nous accueillons Chiara Angori, senior content designer chez Casavo, qui a pu faire ses armes au sein de startups telles que Doctolib. Chiara a déjà participé à un meet-up au sein de l'agence qui a exploré le thème de l'UX writing et de son intégration au sein d'un process design. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Le sujet de cet épisode est l'écriture inclusive, comprendre ses variantes, ses avantages et ses limites. Bonjour Chiara. Premièrement, bienvenue. Avant de commencer à aborder ce sujet, j'aimerais te demander quels sont tes pronoms.
Bonjour Mathurin, mon pronom c'est elle.
Très bien. N'hésite pas à me reprendre s'il m'arrive de faire une erreur tout au long de ce podcast. Chiara, pourrais-tu me parler de qui tu es ?
Bien sûr. Alors, comme tu as dit tout à l'heure, je suis designer aujourd'hui chez Casavo. J'ai une formation en langue étrangère et puis en traduction spécialisée. Et j'ai commencé en travaillant dans la traduction e-commerce pendant plus d'un an, un an et demi. Depuis mars 2021, je suis dans l'UX Writing. Du coup, j'ai commencé chez Doctolib, du coup, dans la santé. Et dès fin 2022, je suis passée dans l'immobilier chez Casavo. J'ai aussi plusieurs activités à côté. Du coup, je suis mentor et bénévole chez Hexagon UX. Et j'ai aussi un club du livre qui parle de design en général avec plusieurs copines.
Ok, super. Beau parcours en tout cas. Pour débuter ce podcast, je te propose d'expliquer ce qu'est l'écriture inclusive et selon toi, pourquoi est-ce qu'elle est importante ?
Oui, alors l'écriture inclusive, c'est une manière de bypasser, on va dire, le masculin par défaut. Du coup, ça va être une façon de trouver des options pour sortir du masculin par défaut par le monde des hommes et une variation, on va dire, c'est les femmes. Du coup, en fait, c'est aussi une excuse pour parler de ces sujets, du coup, du sujet des féminismes, des discriminations, etc., au sein de la société et dans la vie de tous les jours. C'est un moyen de mettre vraiment un pied à la porte et de parler, d'introduire ces sujets au quotidien.
Très clair. Si tu le veux bien, j'aurais aimé aborder les différents grands types d'écriture inclusive. Parce que pour nos auditeurs novices sur le sujet, il convient généralement de séparer l'écriture inclusive en trois grandes familles. L'écriture qu'on va dire épicène, la féminisation du coup des noms, des métiers et des fonctions, et l'écriture non binaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre les trois ?
Bien sûr. Alors, on peut commencer par l'écriture épicène. C'est une écriture épicène ou neutre qui va simplement gommer tout ce qui fait référence au genre. Du coup, en fait, moi, prof, je rentre dans une salle, je ne dis pas bonjour à tous les élèves, mais je vais dire bonjour tout le monde ou bonjour les élèves. Et du coup, comme ça, s'il y a des hommes dans la salle, des femmes dans la salle, en fait, je vais utiliser la même formule. Après, il peut y avoir l'écriture binaire, ou on va dire les langages binaires en général, où en fait, je vais rendre dans une phrase visible ou parlante les deux genres. Du coup, par exemple, si on reprend l'exemple tout à l'heure, ça va être « bonjour à tous et à tous les étudiants » ou même « bonjour les copains, les copines »,« bonjour à tous, .tes » plutôt à l'écrit. Et du coup, c'est une forme d'écriture où les deux genres sont bien présents. La troisième option, c'est le fait aussi d'utiliser une écriture non binaire. Du coup, une écriture que, au lieu de l'écriture épicène, en fait, va créer de nouvelles manières en fait de se référer au genre. Par exemple, au lieu de dire il ou elle, on va utiliser un nouveau pronom yel, où en fait les deux sont présents et du coup ça va être un pronom qu'on peut utiliser aussi pour des personnes non binaires qui du coup ne se considèrent pas ni homme ni femme.
Très bien. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, du coup, je voulais juste préciser, quand on parle d'écriture épicène, on parle aussi de mots épicènes. Ça, c'est des mots qui, du coup, dans la langue française, sont à la fois grammaticalement masculin et féminin.
Oui, absolument.
Pour donner plus d'exemples, ça pourrait être architecte, on va dire une architecte. Mm-hmm. Voilà, c'était pour préciser. Est-ce que selon toi, du coup, il y a une de ces familles qui était privilégiée ?
Moi, je pense que l'écriture épicène est à privilégier parce que c'est une écriture qu'on peut utiliser à l'écrit et à l'oral. C'est une écriture qu'au début est un peu plus compliquée à mettre en place parce que, en fait, il faut faire une somme de gymnastique du cerveau. Mais l'effort nous permet de la réutiliser dans plusieurs contextes et de façon beaucoup moins disruptive, on va dire, par rapport à, par exemple, l'écriture inclusive. Du coup, c'est un peu plus compliqué au début à mettre en place, mais selon moi, en fait, les efforts en valent beaucoup plus la peine.
Et on notera aussi qu'en général, l'écriture épicène est beaucoup plus acceptée, oui, par beaucoup de gens et qu'elle pose beaucoup moins de problèmes de SEO, donc de référencement naturel, plutôt qu'une écriture avec, qui utiliserait des points médians.
Absolument, absolument.
J'ai cru comprendre, du coup, on y vient, que chacune de sa famille possédait ses propres limites et ses avantages. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus à ce sujet ?
Bien sûr. Bah, on a déjà un peu parlé d'écriture inclusive, du coup, aussi du point médian. En fait, ce type d'écriture peut être négative, peut être compliqué à être utilisé pour les personnes dyslexiques, les personnes aveugles pour tout ce qui est screen reader, voice-over, etc. Mais aussi pour les personnes non-binaires, du coup, qui ne se reconnaissent pas ni dans le genre masculin, ni dans le genre féminin. Et en plus, c'est une écriture qu'on peut utiliser à l'oral, surtout à l'écrit, on peut l'utiliser à l'oral, mais ça, c'est un peu mécanique, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est une écriture qui est très très facile à produire, parce que juste, on va trouver moyen de mettre les deux genres en même temps. Mais ça peut être beaucoup plus compliqué à utiliser dans la langue parlée. D'une part, l'écriture épicène est plus difficile à produire, c'est-à-dire qu'il faut un peu de, vraiment de gymnastique mentale pour changer les phrases. Mais en même temps, toutes les personnes qu'on a nommées avant, du coup les personnes dyslexiques, aveugles, non-binaires, pourront l'utiliser sans problème et la recevoir sans problème en soi, parce qu'en fait, c'est une écriture qui juste va gommer certaines caractéristiques, mais c'est une langue qu'on peut utiliser à l'oral et à l'écrit, qu'on utilise quotidiennement sans aucun problème.
Je vois. Et quel conseil donnerais-tu aux personnes n'étant pas à l'aise avec l'écriture inclusive de façon générale et afin qu'ils fassent leur choix ?
Bah, en fait, au début, il faut déjà s'intéresser au sujet. Du coup, ça déjà, c'est en première. Du coup, de commencer à regarder quelles sont les différences, aussi quel type d'écriture nous paraît la plus simple effectuée. On peut commencer par exemple par une écriture inclusive, juste pour commencer à porter les sujets sur la table et après aller vers une écriture épicène ou neutre. Mais en fait, pour être à l'aise, faut être déjà d'accord avec les sujets des bases et après trouver en fait le moyen le plus simple et le plus efficace de l'utiliser.
D'accord. Est-ce qu'il existe des outils ou bien des ressources que tu conseilles afin d'aider nos auditeurs ?
Oui, bien sûr. Alors, pour se mettre un peu dans les bains, je vous conseille le projet qui s'appelle Gender Inclusive Language Project. C'est un projet qui est en anglais au début et en fait, ça va prendre ces sujets des langages inclusifs, des langages neutres et en fait, il va être représenté dans toutes les langues. Du coup, bah, parler des langages inclusifs, langage non-genré, en italien, en français, en russe, c'est pas exactement la même chose parce que ce n'est pas la même langue. Du coup, en fait, pour chaque langue, il va y avoir une personne qui va raconter en fait comment utiliser cette langage. Et pour la France, il y a Gladys Diandoki qui a fait cette vidéo, je pense, d'une vingtaine, trentaine de minutes que vous pouvez retrouver facilement. Et c'est elle aussi qui a sorti un épisode qui s'appelle « Design inclusif » que vous trouvez sur YouTube aussi, où en fait, elle parle aussi de ce sujet-là. Pour avoir travaillé chez Doctolib, je sais qu'on avait commencé un projet sur les design systems Doctolib où en fait, en fonction des langues, on mettait en place quelques tips pour aider les designers de notre côté, mais en général, peu importe qui utilisait les design systems, à vraiment faire cet exercice-là. Du coup, c'était 3-4 manières pour convertir en phrase du participe passé au présent, par exemple, pour éviter le fait d'utiliser en genre masculin, féminin, etc. Du coup, ça, je dirais, c'est 3 sources que vous pouvez trouver facilement pour commencer à approfondir les sujets.
Très bien. Et moi, je rajouterais peut-être une autre source auquel je pense. C'est le site, le Notion, qui s'appelle UX et genre, sur lequel vous pouvez retrouver des tips pour écrire de façon inclusive, sous forme de 10 tips qu'on peut utiliser. Et c'est assez bien expliqué. Du coup, je pense que c'est pas mal en termes de vulgarisation. On entend souvent dire que l'écriture inclusive peut poser des problèmes de lecture aux personnes souffrant de handicap visuel, tu l'as précisé aussi avec les personnes dyslexiques, ou bien lors de l'apprentissage de l'écriture pour les jeunes enfants. Est-ce qu'il existe des études concrètes sur ce sujet ?
Alors, pour tout ce qui est handicap visuel, c'est vrai qu'aujourd'hui, les technologies qu'on a, comme par exemple les voice-overs, ils réussissent pas forcément à bien interpréter les langages inclusifs et du coup à le remettre à l'oral, mais après, c'est les mêmes problèmes qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le langage inclusif à l'oral, ça va être plus compliqué à mettre en place. Pour tout ce qui concerne, par exemple, l'apprentissage de l'écriture, je ne suis pas au courant d'études concrètes sur Moyena, mais en fait, l'éducation nationale, elle est très claire sur ça. Elle ne veut pas qu'on utilise ce type de langage parce qu'en fait, elle pense que ça va rendre l'apprentissage beaucoup plus compliqué. Probablement, ils ont des sources, probablement, c'est des sources fiables, mais en fait, c'est aussi important de se rappeler que l'école doit, a déjà beaucoup, beaucoup de tâches dans la vie des jeunes adultes, dans la vie des enfants, parce qu'il y a beaucoup de types différents d'activités qui sont proposées. Du coup, pour moi, même juste avoir un atelier où on parle de ça, ça peut commencer à amener le débat. Et après, chaque enfant pourra aussi voir à sa sauce si c'est un sujet qui l'intéresse ou pas, mais au moins d'en parler, parce que sinon, en fait, on sort de l'école et on ne sait pas vraiment qu'un truc comme ça existe.
Ok, très bien. L'écriture inclusive est aussi un sujet très poétique, de par sa nature relativement nouvelle, même si c'est pas si nouveau que ça dans l'histoire, mais elle, c'est assez disruptif. Aurais-tu quelques conseils à donner aux personnes faisant face à une forte résistance de la part de leurs supérieurs ou bien d'autres personnes ?
Oui, bien sûr. Bah, en fait, aujourd'hui, oui, c'est un sujet politique parce qu'en fait, on utilise la langue, on utilise l'écriture tous les jours. Et du coup, c'est sûr que si on veut faire une révolution, ça commence par les mots. Ça doit commencer par les mots parce que c'est ce qu'on utilise au quotidien. Du coup, bien évidemment, quand on commence à voir des écritures inclusives, on peut déjà comprendre vers où, par exemple, la boîte veut aller ou quelles sont les convictions de la personne en soi. Du coup, en fait, pour moi, les tips, c'est de commencer à l'utiliser soi-même et après, on peut utiliser une langue épicène, c'est-à-dire une langue où, en fait, on gomme tout et du coup, on ne va pas être pris par des féminazis, on va dire. C'est juste que c'est un type de langue assez simple, efficace et qui n'est pas disruptive comme, par exemple, l'écriture inclusive. Mais c'est aussi de partager des ressources, partager, expliquer en fait pourquoi on fait ces choix-là, pourquoi on est sensible aux thématiques féministes et du coup pourquoi on commence à être sensible à tout ça. Même si je pense à une chanson très très connue des années 2000, c'est-à-dire « C'est une pute » de Fatal Bazooka, en fait c'est une chanson que même si c'est pas parlant linguiste, on va dire, ça fait vraiment voir à quel point la langue est sans pitié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs mots qu'au masculin ont une connotation positive ou neutre, et qu'au féminin, bah, c'est une pute, quoi. Du coup, en fait, c'est vraiment aussi l'importance d'accepter que notre langue n'est pas neutre, et du coup, c'est aussi à nous de bien savoir l'utiliser pour réussir à améliorer la société où l'on vit.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Pour finir, j'aimerais que nous abordions la notion d'inclusivité de façon plus large. Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire avoir un design inclusif et pourquoi est-ce que c'est important ?
Oui, pour moi, avoir un design inclusif, c'est à partir du moment où on conçoit un produit, on va le concevoir en pensant à tout un panel différent des personnes. C'est-à-dire, même si on pense, un truc tout bête, mais à la ceinture de sécurité dans la voiture, c'est le même objet, mais en fait, en fonction de ta taille, par exemple, tu vas l'utiliser de façon différente avec une différente extension, on va dire. Du coup, pour moi, ce n'est pas de créer 10 milliards de produits pour 10 milliards de personnes différentes parce que c'est pas scalable, c'est sérieusement possible, mais c'est vraiment le fait de rendre un design qui peut être malléable, qui peut être utilisé de différentes manières par différentes personnes. Et aussi, du coup, ne pas exclure des gens qui ne sont pas dans la norme, ne sont pas dans les personas, entre guillemets, standards, et ne pas considérer tout ce qui n'est pas persona comme une exception, comme un corner case. Et en plus, c'est quelque chose, les designs inclusifs, ça revient à la mode, entre guillemets, parce que c'est important pour des raisons économiques, parce que plus d'utilisateurs, ça veut dire plus d'argent, mais aussi pour des raisons éthiques, parce qu'en fait, si on décide de ne pas rendre un site accessible, ça veut dire qu'on ne rend pas les produits utilisables par une certaine tranche de la population. Du coup, est-ce qu'on est à l'aise avec ça ? Est-ce qu'on est à l'aise avec le fait de couper une partie et de ne pas donner un service ? Si on parle surtout des services publics. Mais même, on peut penser ça, on peut ramener ça à quelque chose du quotidien, du coup, même les habits. Il y a des marques comme par exemple Chine qui a objectivement des gros, gros problèmes pour tout ce qui est droits de l'homme, environnement, etc. Mais en fait, pour moi, Chine, aujourd'hui, ça a aussi un grand impact sur le marché de la mode parce qu'il y a des tailles qui sont beaucoup plus inclusives par rapport à celles qu'on peut trouver sur, dans Zara, H&M, etc. Et du coup, en fait, vu que certaines personnes sont coupées et ne peuvent pas utiliser des produits de la fast fashion comme Zara, etc., bah, en fait, ils doivent se tourner vers Chine ou d'autres qui font de l'ultra fast fashion, mais au moins, ils se sentent partie d'un truc, ils se sentent partie du bassin, on va dire, des utilisateurs que Chine a pris en compte pour ses propres vêtements.
Ok, très clair. Et avant de nous quitter, est-ce que tu aurais une référence, un article, un livre, une œuvre au sujet de l'écriture inclusive à partager avec nos auditeurs ?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai déjà parlé du projet Gender Inclusive Language Project. C'est que des vidéos, du coup, c'est très facile à regarder. C'est très cool aussi si on connaît plusieurs langues étrangères. Au moins, on voit comment c'est utilisé. Un livre qui était vraiment en coup de cœur, c'était Femme Invisible, du coup Invisible Woman, par Caroline Criado-Pérez, où en fait, elle apporte des vrais exemples. Comme par exemple, elle parle des demi dans les voitures, où en fait, les demi, ils vont être surtout avec des proportions d'hommes et non pas de femmes. Et en fait, ça a un vrai impact parce que si une femme fait un accident des voitures, elle a beaucoup plus de possibilités, elle va beaucoup plus se blesser parce qu'en fait, les demi n'utilisaient pas ses propres proportions. Après, il y a plusieurs livres. Moi, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Une histoire des genres, qui est écrit par l'activiste trans Lexi et qui, du coup, est écrit non pas qu'en inclusif, mais en inclusif non-binaire, on va dire. Et du coup, c'est un livre hyper intéressant où on parle aussi de la notion de genre et ça peut être très chouette pour en apprendre aussi du genre dans le monde entier.
Très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Chiara.
Merci. Merci à toi.
Et merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Un poil du X et de la grande ours. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir et à partager le lien de l'épisode sur vos réseaux. Vous pouvez également retrouver de nombreux articles sur le blog de notre site lagrandours.design. Merci et à très vite pour un nouvel épisode d'Un poil du X.